Bonjour et bienvenue dans ce deuxième tiers du cursus sur le design applicatif. Dans le tiers 1, on a vu quels étaient les métiers du design. On a vu quelles étaient les préoccupations du designer au moment où il doit concevoir une application. Et on a vu aussi quels étaient les différents process et comment réfléchissait un designer, quelles étaient les étapes qu'il mettait en place pour arriver à finaliser un design applicatif. Donc, dans ce deuxième tiers, effectivement, nous verrons quels sont les outils utilisés par le designer pour parvenir à ses fins. On est parti. Le design applicatif, tiers 2, les outils du designer. Donc, je me présente à nouveau. Je m'appelle Michel Rousseau, je suis évangéliste technique pour tout ce qui concerne l'UX et l'UI chez Microsoft France. Puisque vous avez suivi le tiers 1, bien entendu, vous savez ce que c'est que l'UX et vous savez ce que l'UI. Pas besoin de revenir sur ces concepts. Pour designer une application, finalement, on utilise quoi? C'est la question qui nous reste après avoir vu les différents process et les préoccupations. Donc je rappelle que le design est un processus intellectuel qui va nous amener à nous poser des questions à propos d'une problématique, par exemple. Et pour ça, le premier outil que vous allez utiliser, c'est votre matière grise. Parce que vous allez commencer par une phase intense de réflexion. En quoi mon appli est la meilleure? Ou si ce n'est pas la meilleure, en quoi c'est la plus originale? En quoi elle délivre un service particulier dont les gens ne pourront plus se passer bientôt? Et donc, à nouveau, on va passer par une phase d'idéation, brainstorming et ainsi de suite. Commencer à rassembler ces idées au niveau de l'exploration et les commenter. Donc, pour rappel du tiers 1, on aura besoin à différents moments, de créer des storyboards, de créer des wireframes, de créer des esquisses et des maquettes. Et pour ça, on va avoir besoin d'outils de conception, esquisses, storyboard, wireframe, qui correspondent finalement à la phase exploratoire de notre process de design au cours duquel on passe par trois phases, la phase d'idéation, la phase d'exploration et la phase de consolidation. Là, on est déjà dans la deuxième phase, la phase d'exploration dans laquelle on va devoir commencer à exprimer son application sous forme d'esquisse, de storyboard et de wireframe. Deuxième grand point pour lequel on a des outils, la création. C'est là où vous allez à nouveau rentrer dans la charte graphique, donc tout ce qui est identité de marque, les maquettes designées, les maquettes en détail, quand vous voulez expliciter certains points de votre interface, et finalement le découpage des assets. On verra après comment on fait tout ça. Et puis enfin, vous passez par une phase d'intégration dans laquelle vous réfléchissez maintenant en termes de structure d'information, dans laquelle vous allez disposer vos différents contrôles. Et là, vous allez commencer à parler maquette fonctionnelle, avoir effectivement une maquette qui produit du feedback. Donc la conception et ses outils, pour commencer, bien entendu, le papier est une valeur sûre. Vous connaissez peut-être la marque Moleskine qui fait des petits carnets à dessin qui sont très très pratiques, qui permettent effectivement d'emporter ses idées partout, de les dessiner à brûle pour point dans le métro, à l'aéroport, au travail, à la pause, permettent de prendre vite fait des notes et de faire des petits croquis. Bon, ceci dit, le numérique, c'est bien aussi et on dispose aujourd'hui d'outils qui font ça très très bien. Par exemple, OneNote. Alors OneNote est un produit Microsoft qui me permet effectivement de prendre des notes, surtout que je dispose d'un device qui est particulièrement précis à ce niveau-là, qui est une Surface Pro 3 et qui embarque un stylet. Donc ça me permet vraiment de prendre des notes rapides. Donc OneNote, c'est un peu un calepin numérique. L'avantage, c'est que vos esquisses vous suivent partout, puisque ces notes que vous prenez sont synchronisées à travers le cloud. Donc ça vous permet de prendre des notes dans le métro avec votre téléphone et de les retrouver le soir sur votre PC pour les commenter, les améliorer. C'est multimédia par nature, vous pouvez glisser à l'intérieur des films, vous pouvez glisser des sons, vous pouvez même capturer un son avec votre téléphone et le glisser dedans, vous pouvez y mettre des adresses, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mélanger prise de notes et croquis rapide, et puis surtout vous pouvez facilement envoyer votre prise de notes à vos contacts préférés directement par un partage de fichiers. Donc c'est quand même plus facile que d'arracher les pages de son Moleskine. Mais alors, ça ressemble à ça dans sa version 2013, sachant que pour tablette, il en existe une version encore un peu plus simplifiée et un peu plus orientée touch. Mais là, en l'occurrence, hein, notre pitch étant acheter des chats sur Mars, bon, bah, j'ai commencé à me faire effectivement des petits croquis. Vous voyez ici un premier croquis applicatif, une définition peut-être d'un titre avec des priorités mobile first et du fun. Bon, ça, je vais vous en montrer un exemple rapide. Donc là, j'ouvre une nouvelle section, vous voyez, et je peux commencer d'ores et déjà à dessiner mon application. Donc par exemple, en disant, bah là, j'aurai le logo. Là, j'aurai le pitch. Là, j'aurai un cercle avec un chiffre. Et donc, vous voyez, ça permet de faire des... et puis des boutons. Ça permet, là, vous voyez, ça permet de faire effectivement de la saisie rapide. Vous pouvez même aller un peu plus loin, hein, puisque vous avez des tas d'options de surlignage qui vont vous permettre eh bien, de commencer à donner des couleurs et une apparence à vos objets. Comme vous voyez, je fais ici. C'est extrêmement efficace, extrêmement rapide. Et ça vous permet effectivement de mettre en place rapidement vos idées. Donc OneNote est très bien hein, pour tous ces aspects, et notamment pour le fait qu'on puisse partager rapidement ces notes. Autre chose, OneNote permet de se créer des stickers directement sur, là en l'occurrence, le desktop Windows, et donc permettre de se faire des notes rapidement. Deuxième point pour prototyper, PowerPoint. Alors les gens sont toujours étonnés quand je leur dis que PowerPoint est mon outil de prototypage. Pourtant, il est extrêmement puissant pour faire ceci. Et pourquoi PowerPoint? Parce que PowerPoint, d'abord, est disponible partout. Sur PC, sur Mac, sur Android, sur téléphone, sur ordinateur. Vous pouvez avoir accès à PowerPoint partout. Il permet de câbler des idées de manière interactive. Ça, c'est très intéressant pour se faire des maquettes interactives qui vont montrer le schéma mental et le parcours utilisateur. Il est simple et facile d'utilisation. C'est un standard aujourd'hui. Il permet d'annoter et de commenter ce que l'on est en train de faire. Donc, ça veut dire que je peux partager mon fichier PowerPoint via Office 365 à mon client. Et mon client peut très bien me faire des annotations qui vont remonter automatiquement lorsque je vais travailler dessus. Et enfin, il dispose de formes de storyboard. Alors là, ça se présente sous cette forme-là. Vous voyez que j'ai déjà commencé à travailler avec mon PowerPoint sur une première page, voire une seconde page de mon application. Vous voyez sur le côté qu'effectivement, j'ai des formes d'animation qui me permettent d'ores et déjà de réaliser certaines maquettes. Alors, je vais vous montrer ça en vrai. On va en ouvrir une nouvelle. Nouvelle présentation. En l'occurrence, de tout ça, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais le sélectionner ici. Comme ceci. Très bien, à partir de là, je vais pouvoir créer mes nouvelles formes. Donc, je vais dans création de plan conceptuel à ce niveau-là. Ceci, je vais le punaiser pour que ça reste constamment à l'écran. Je vais dans forme d'animation. Et comme ça, j'ai à ma disposition tout un tas de contrôles déjà pré-designés qui vont me permettre de designer mon appli. Alors, par exemple, je veux effectivement une appli Windows Phone. Je vais venir positionner mon élément ici. Je vais le réduire peut-être un peu. Et je vais commencer à designer des choses à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, je vais mettre une forme classique, un rectangle, comme ceci. Et à l'intérieur, j'ai envie de mettre un bouton d'accès. Donc, je vois que j'ai aussi des contrôles classiques, comme le bouton. Je pose mon bouton, tout va très bien. Je pourrais même le renommer, ce bouton. Hein. Vous voyez que j'ai des options dessus, je vais l'appeler « Entrée ». Et je vais le déplacer un peu mon bouton. Là-dessus, je pourrais aussi mettre une forme vectorielle pour dire je veux mettre mon logo. Voilà. Plissage orange. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Maintenant, je me dis, une fois que je suis rentré, j'ai envie d'atteindre une deuxième page avec une carte. Très bien, je vais insérer une nouvelle diapositive. Cette diapositive, je vais mettre un téléphone en mode paysage et à l'intérieur de laquelle je veux une carte pour trouver des chats sur place. Très bien, pas de problème, je descends, je vais finir par trouver, vous voyez que ici, un mapmaker, très bien, je vais me le garder ici pour l'instant, et puis, oh, une carte. Je redimensionne cet élément, super, et je positionne mon élément mapmaker que je vais passer au premier plan. Clic droit, mettre au premier plan, agrandir, toc, et j'ai créé mon deuxième écran. Maintenant, pour passer du premier écran au deuxième, c'est assez simple, je vais ici sur mon bouton, et je vais dire que cet élément, c'est un lien hypertexte, vers quoi ? Bah, vers une page finalement dans le document, qui est la diapositive 2. Je valide, et maintenant quand je vais jouer diaporama, je vais me retrouver sur la bonne application et quand je vais cliquer sur « Entrée », il va aller à la deuxième page. Donc, ça me permet vraiment de câbler les pages les unes aux autres et de créer du contexte à ce propos. Donc, on peut vraiment, à partir de là, faire des choses très, très sympas et faire des storyboards complets d'applications qui vont me permettre de montrer et démontrer mon application. Le truc qui est bien aussi, c'est que à tout moment, je peux faire des annotations. Donc, je vais fermer cette partie-là et je vais annoter mon propos. Donc, je vais mettre un commentaire. Je crée un nouveau commentaire. Je vais dire ce commentaire, il va ici et je vais dire ouais, j'aime pas le orange. Voilà. Et ça, à partir du moment où je vais le partager sur un serveur type cloud, les gens vont pouvoir prendre connaissance de ce commentaire et pouvoir y répondre, pouvoir modifier cette maquette. Très bien. Revenons à notre PowerPoint initial. Une fois la passe de conception faite, vous allez devoir vraiment travailler sur la création de contenu. Et pour la création, vous allez avoir besoin de quelques outils de charte graphique. Alors moi, j'utilise souvent les mêmes outils qui me permettent d'obtenir soit de l'inspiration au niveau de la charte graphique, soit des choses qui vont me permettre de trouver la bonne couleur, la bonne police, vraiment définir une ambiance pour l'identité de marque de mon application. Pour ça, vous avez notamment pour l'inspiration Best Web Gallery. Best Web Gallery, c'est vraiment pour moi l'endroit où je passe avant tout développement. Ça me permet de savoir ce qui est à la mode, ce qui est utilisé en ce moment en termes de contrôle et quelles sont les influences graphiques dont je dois tirer parti pour bâtir quelque chose qui sera moderne et qui sera dans l'air du temps. Voilà, Best Web Gallery me permet effectivement de naviguer à travers une galerie de sites web particulièrement sympa avec un aspect particulier et me permet effectivement de sélectionner un site pour en avoir une prévisualisation. Je peux même noter ce site et m'y rendre. Voilà, là je suis arrivé sur le site et ça me permet effectivement de voir comment est fait ce site. Très bien, ça c'est le premier site, c'est mon premier site de référence. Deuxième site de référence, FontSquirrel pour trouver des polices de caractère. Là, vous pourrez trouver des polices libres de droit ou achetables qui vont vous permettre effectivement de donner un véritable caractère à votre application en trouvant la police qui correspond parfaitement à ce que vous voulez donner en termes d'image et d'identité. Troisième grand site, Adobe Color CC. Là, c'est plutôt pour définir les caractéristiques colorimétriques de votre application. Donc là, en l'occurrence, et on va s'y rendre pour que ça soit peut-être plus flagrant. Voilà. Là, en l'occurrence, je suis dans des réglages de couleurs. Je peux définir moi-même des réglages de couleurs custom. Donc, vous voyez, je déplace un curseur et automatiquement, il me redéfinit une palette de couleurs en dessous. Je peux aussi choisir par type de réglage, monochrome par exemple, si je veux un site entièrement rouge. Et ça me permet de trouver des nuances ici qui vont pouvoir être agréables à l'œil. Je peux trouver aussi des triades, donc des couleurs qui sont basées sur une distance équivalente qui est à peu près de 120 degrés autour de la roue chromatique. Voilà. Et puis éventuellement des couleurs complémentaires si vous tenez à ce que votre site ressemble à un sapin de Noël. Plus que ça, ça vous permet ici de récupérer les valeurs hexadécimales dont on aura besoin dans des logiciels comme Photoshop, comme Illustrator que l'on verra ensuite, ou comme Blend pour Visual Studio que l'on verra dans le tiers 3. Et puis surtout, ça vous permet ici de venir explorer des thèmes qui sont à la mode en ce moment. Donc par exemple, on a celui-là, ce thème-là, mettons, et je peux retrouver les valeurs en allant sur Modifier. Je retrouve les valeurs de ce thème pour savoir quelles sont effectivement les grandes valeurs utilisées pour ce thème. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Ça va vous permettre de définir un environnement, une couleur ou un ensemble de couleurs pour définir l'identité de marque de votre application. Troisième grand site à aller voir, c'est noonproject.com, va vous permettre de trouver des ressources iconographiques. Là, en l'occurrence, je suis sur le site, je peux déjà trouver un certain nombre de pictos et de ressources graphiques. Là, je vais chercher, je ne sais pas, moi par exemple, Brain. Voilà, Brain, automatiquement, il me propose déjà des images de cerveau que je peux ouvrir ici et que je peux surtout télécharger. Voilà, je peux les télécharger en PNG. PNG est un format d'image bitmap et SVG qui est un format d'image vectoriel. On verra aussi après, plus tard, à quoi ça correspond. Mais là, en l'occurrence, vous voyez que je peux télécharger tout un tas d'images et j'ai le reste qui apparaît pour me proposer un choix complémentaire. Donc très très bien aussi pour trouver des pictos, sachant que ces pictos sont souvent, ils ne sont pas libres de droit, ils sont soumis à des autorisations. Néanmoins, vous pouvez aussi acheter ou consulter les restrictions d'usage pour ces pictos. Passé Noonproject, on trouve Getty Image. Alors là, j'ai cité Getty Image pour le côté connu de ce site-là. Ça aurait pu être Photoalia, ça aurait pu être Photoalia, ça aurait pu être, je ne sais pas, il en existe des dizaines de sites de banque d'images. Effectivement, la banque d'images est votre source d'inspiration et votre source d'assets. C'est là où vous allez acheter vos fonds de page, vos premiers contenus, toutes vos parties marketing de votre apps peuvent être trouvées sur ces parties-là. Donc effectivement, s'adosser à une banque d'images, c'est aussi une assurance d'avoir des visuels de qualité. Donc ne vous privez pas de prendre ce genre d'abonnement. Ensuite, nous allons passer vraiment à la phase conception. Premier outil utilisé de manière indéniable par les designers, c'est Adobe Illustrator. Alors, Adobe Illustrator permet de générer des wireframes, donc ce que l'on a vu précédemment avec PowerPoint, on peut le générer aussi, bien entendu, avec Illustrator. Mais ça permet aussi de générer des assets, et des assets de conception vectorielle. Alors, le vectoriel, c'est une manière particulière de représenter une image, simplement en définissant des formes mathématiques. Et ces formes mathématiques, elles sont fortement compressables, donc ça fait des formats de fichiers qui sont relativement légers et qui étaient à l'origine prévus, notamment pour tout ce qui était impression. Surtout pour les impressions grande taille, les premières impressions numériques grande taille étaient faites effectivement dans des formats vectoriels parce que embarquer autant de pixels, qui est l'autre grand format d'image, c'était compliqué de faire tenir ça sur les disques durs d'il y a 15 ans. Donc pour ça, on passait par des symbolisations et des formes mathématiques qui permettait d'obtenir des fichiers bien moins lourds. Donc, il est le référent du marché. Il est utilisable aussi bien en applicatif qu'en web ou qu'en print. Et surtout, les fichiers sont dits scalables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être mis à l'échelle de manière indépendante de la résolution. C'est-à-dire que je peux très bien exécuter un fichier vectoriel en 300 pixels par 600 pixels ou en 2000 pixels ou 3000 pixels parce que ces fichiers, comme ils sont définis par des formes mathématiques, ne sont pas liés à la résolution de votre écran. C'est-à-dire que vous ne perdrez jamais en qualité et vous n'aurez jamais l'impression, en augmentant la taille, d'avoir un effet pixelisé.
Alors, voyons voir ce que ça donne et ouvrons Illustrator. Donc là, j'ai une version qui n'est pas toute jeune. C'est la version CS6, mais globalement, les fonctionnalités sont surtout basiques, hein, sont les mêmes aujourd'hui. Donc vous voyez que ça se présente sous une forme très classique, je dirais. Nous allons créer un nouveau document. Voilà, j'ai mon nouveau document qui est créé. Et à l'intérieur de ça, je vais créer des formes vectorielles. Alors, une forme vectorielle, ça peut être un rectangle. Ce rectangle, je vais le remplir d'une certaine couleur ici, je vais dire gris, avec un contour noir qui sera épais de 8 pixels. Très bien. À l'intérieur de ce bouton, je vais créer, je voudrais une forme ronde ici pour fermer le bouton. Donc je vais venir ici. Je vais venir ici cliquer sur cette petite flèche qui est au bout de ma forme vectorielle, qui veut dire qu'il y a quelque chose encore derrière. Je vais venir maintenir appuyé et choisir ellipse. Et je vais dessiner, en me basant sur l'ancrage qu'il me propose, une ellipse. Cette ellipse, je vais la rapprocher ici. Et je vais dire, ben ça, j'aimerais en faire une seule et même forme. Très bien. Avec Shift enfoncé, je sélectionne les deux formes. Et je vais faire ce qu'on appelle une opération de pathfinding. C'est-à-dire que je vais les mélanger l'une avec l'autre. Alors pour ça, je vais aller ouvrir la fenêtre du Pathfinder qui est ici. Et je vais lui dire, cette forme-là, j'aimerais que tu la merges. Et ça se trouve ici, pour mélanger simplement deux formes, ou ici pour pathfinder la chose, qui sont deux concepts différents. On va le voir tout de suite. Si je sélectionne ici le merge, je vois que j'obtiens une nouvelle forme qui est héritée des formes précédentes. Si je fais plutôt un groupement, je vois que je conserve les attributs de la forme. Donc finalement, ça n'est jamais qu'une espèce de groupe qui a été fait, alors que l'opération de pathfinding, lui, détruit des sommets et permet d'en supprimer quand ils ne sont pas utiles. Donc très bien, j'ai créé mon fond de bouton, il ne me reste plus qu'à mettre du texte. J'ai un outil texte qui se trouve ici. Je le sélectionne et j'écris mon texte dans un petit carré ici et je vais appeler ça bouton. Je vois que le texte est beaucoup trop petit, donc je vais sélectionner une police de caractère beaucoup plus grosse. Peut-être que je sélectionne mes polices d'abord. Voilà. Je repositionne mon élément. Et j'ai bien mon bouton. Donc vous voyez, ce n'est pas très dur de créer des assets graphiques. Sachant qu'en plus, hein, vous avez bien entendu des niveaux de complexité supplémentaires. Vous pouvez gérer tous ces différents éléments par le biais de calques que vous pouvez masquer ou afficher. Hein. Et bien entendu, vous pouvez rajouter des calques. Par exemple, ici, si je voulais faire un effet un petit peu de gélule, je rajouterais ici un nouveau calque pour gérer ceci. Et je dirais qu'il me faudrait un rectangle allongé qui serait de couleur blanche. Et peut-être pas tout à fait opaque. Voilà, et j'ai créé un petit effet 3D rapidement sur mon bouton. Donc voilà comment on crée des assets vectoriels. Vous noterez que si je me rapproche de mon objet, je ne perds pas en définition. Il reste toujours très très net. Je peux m'approcher comme ça à l'infini, il restera net. Parce qu'encore une fois, ces objets-là sont définis par des formes mathématiques. Je vais vous montrer globalement ce que ça donne. Il suffit que je sélectionne ici le texte, alors il faut que je fasse une petite opération dessus pour le transformer en forme mathématique. Et vous voyez qu'ici, finalement, ce sont des points mathématiques qui définissent la forme, ce ne sont pas des pixels qui la définissent, donc des petits carrés. Voilà, donc vous pouvez comme ça modifier complètement votre label ici et dire ben, moi je voudrais que ce sommet là et ce sommet là soit beaucoup plus bas. Voilà. Donc ça c'est Illustrator et ça c'est l'un des outils de base de votre designer quand il commence à faire soit des wireframes, soit effectivement des assets graphiques qui sont des parties designées de l'interface. Revoilà hein, l'exemple du bouton et de l'interface d'Illustrator. Deuxième outil qui lui aussi est mondialement connu, c'est Adobe Photoshop. Alors Adobe Photoshop, hein, c'est le logiciel de conception bitmap. S'il doit bien y avoir un référent sur le marché, c'est celui-là. Il est incontournable. Il est utilisable aussi bien en applicatif qu'en web ou en print. Par contre, ces fichiers sont statiques. C'est-à-dire que la résolution des assets que vous ferez évoluera finalement assez peu. Alors pour ça, je vais ouvrir Photoshop. Voilà, et je vais aussi me faire un bouton. Donc je vais créer un nouveau document. Donc là, je travaille généralement en pixels. Je vais dire 400 par 400. Et je vais venir me rapprocher un petit peu, créer ma première forme. Voilà. Créer une deuxième forme. Vous voyez que là aussi, hein, c'est encore, on hérite un petit peu du modèle vectoriel. J'ai encore des formes un petit peu vecto. Je peux créer facilement des formes ici et ainsi de suite. Je vais pouvoir ajouter du texte. Voilà, blanc, mettons ce texte. Je vais ajouter mon texte ici sur un nouveau calque et je vais l'appeler bouton. Ça me convient pas au niveau de la taille ni du placement. Je viens le déplacer un peu. Je viens dire 72 au niveau de la police, toujours en la sélectionnant. Donc vous voyez, la logique est la même, hein, que je passe d'un logiciel à un autre. C'est juste que la méthode n'est pas la même, comme on va le voir derrière. J'ai fini de définir mes différentes parties de mon asset bouton. Bah, vous voyez que quand je me rapproche, par contre, là, il commence à y avoir de la casse. Pourquoi ? Parce que j'ai défini mon bouton comme faisant partie d'une planche qui fait 500 par 500. Donc dès que je lui demande une résolution supérieure, donc un bouton qui sera plus grand, et bien finalement on commence à avoir des effets désagréables comme ce qu'on appelle ici cet effet de crénelage, cet effet d'escalier qui est pas très élégant. Pour autant, sur un bouton comme ça, les formats que vous utiliserez seront souvent très très génériques comme le PNG, le JPEG, donc ils sont reconnus par toutes les applications d'intégration, ils sont très facilement manipulables, ils sont très facilement modifiables. Par contre, ça implique de travailler à l'échelle du device qui va supporter finalement mon design applicatif. Donc voilà pour les deux grands outils de conception. Et voilà un peu effectivement ce que donne l'interface de Photoshop. Sachant que l'un va aussi avec l'autre, c'est-à-dire que je peux exporter des fichiers Illustrator dans Photoshop et inversement. Le test utilisateur, ça aussi, on l'a vu, c'est une grande partie du design applicatif. Pour ça, il existe tout un tas de plateformes. La dernière en date que j'ai découvert, moi, c'est Marvel. Marvel, ça permet de faire du prototypage d'applications. Donc, à partir des JPEG, justement, qui seront générés avec Photoshop dans la phase de création, vous pourrez faire des planches qui deviendront interactives les unes par rapport aux autres sur un site web. Donc ça veut dire que vous pourrez effectivement changer de page à la volée et en faire bénéficier votre utilisateur qui se connectera sur la maquette. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de suivre le parcours utilisateur. C'est-à-dire que vous pouvez mettre vos maquettes en test et vous pouvez récupérer les statistiques des utilisateurs. Donc, ça permet d'ores et déjà de voir si les utilisateurs comprennent bien le parcours que vous leur proposez et comprennent le schéma mental qui est lié à votre application. Donc, marvelapp.com. Et enfin, l'intégration. L'intégration, c'est la partie finale. Une fois que vous avez fait effectivement tous vos assets, que ce soit vos logos, vos boutons sous Illustrator, que vous ayez fait vos fonds d'image, vos petits pictos et ainsi de suite sous Photoshop, vous passez à la phase d'intégration qui va consister à les intégrer au sein d'une maquette fonctionnelle, c'est-à-dire qui va créer du vrai code derrière. Et pour ça, vous avez Blend pour Visual Studio qui est un outil pour intégrateur et qui permet de créer des dispositions, des patrons, des maquettes graphiques dans lesquelles vous allez pouvoir créer des vrais contrôles qui va générer du vrai code derrière ou alors d'intégrer toutes vos maquettes graphiques à l'intérieur d'un code existant qui aura été fait par un développeur. Ça permet aussi de tester sa solution, donc de passer en mode run, de passer en mode exécutable. Donc vous appuyez sur un bouton et globalement la solution est compilée pour vous et exécutée comme une application normale. Et surtout, ça permet de tester son code graphiquement en fonction de plusieurs résolutions, avec des simulateurs et éventuellement avec plusieurs langages de programmation sous-jacents. Voilà. Voilà un exemple d'interface de Blend pour Visual Studio. Je ne m'attarde pas là-dessus, puisque de toute manière, ce sera le propos du tiers 3 qui va suivre ce tiers 2. Voilà, vous pouvez effectivement aussi tester dans différents simulateurs. Là, on voit qu'il s'agit d'un simulateur de tablette Windows. Je peux exécuter dedans mon Windows et exécuter l'application que je suis en train de développer graphiquement directement au sein de mon Windows. Merci d'avoir assisté à ce deuxième tiers du cursus sur le design applicatif. Troisième étape, on verra comment on intègre une solution graphique complètement dans Blend à partir d'une application qui n'est que fonctionnelle. Merci encore et à bientôt.